Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la chondroplasie. Et pour parler de l'aspect radiologique de cette maladie rare, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Olivier Prodhomme. Docteur Prodhomme, bonjour.
Bonjour.
Docteur Prodhomme, vous êtes radiologue, praticien hospitalier au sein du service d'imagerie pédiatrique du CHU de Montpellier et médecin du centre de compétences des maladies du métabolisme du calcium et du phosphore de la filière OSCAR. Alors, docteur Prodhomme, pour débuter notre entretien, une question que se posent beaucoup de parents. Est-ce qu'il est possible d'effectuer un diagnostic anténatal de la chondroplasie?
Effectivement, dans la plupart des cas, le diagnostic peut être fait en prénatal. Donc, en France, il y a un dépistage organisé des malformations fœtales avec 3 échographies, une à 12 semaines, une à 22 semaines et une à 32 semaines, pendant lesquelles on mesure la longueur du fémur et le périmètre crânien. Ceci étant utilisé pour l'évaluation du poids fœtal. Et donc, au troisième trimestre de la grossesse, on peut être amené à repérer un fémur court et une macrocranie avec une disproportion entre la longueur des os et la taille du crâne, et également un ralentissement de la croissance des os. On peut également trouver un front bombé, une encélure nasale marquée. Et à cette occasion-là, lorsqu'il y a des malformations, on adressera au centre de référence prénatal avec la réalisation d'une échographie de référence. À cette occasion-là, on peut être amené à faire des images supplémentaires qui peuvent mettre en évidence une anomalie particulière de l'extrémité supérieure des fémurs, avec un aspect en cuillère à glace, éventuellement des mains courtes avec une main en trident, les métacarpes et les phalanges sont courts. Il peut être mis en évidence un hydramnios, mais c'est un signe indirect et pas spécifique. Secondairement, on peut être amené à faire un scanner fœtal, réalisé avec des très basses doses d'irradiation, juste pour mettre en évidence la morphologie du squelette. Et secondairement, s'il y a des signes spécifiques ou à l'échographie ou au scanner, on peut être amené à faire une analyse du gène FGFR3, qui est le gène de la chondroplasie. Le diagnostic anténatal de la chondroplasie pose des questionnements éthiques, puisque le droit français permet l'interruption médicale de grossesse. Cette interruption médicale de grossesse peut avoir lieu jusqu'à la toute fin de la grossesse, lorsqu'un diagnostic d'une particulière gravité est fait en anténatal et que ce diagnostic ne conduit pas à un traitement curatif. Actuellement, la chondroplasie ne peut être traitée de manière curative. Des traitements sont actuellement en développement pour améliorer le pronostic de taille. Et peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que l'interruption médicale de grossesse est encore licite au vu des développements thérapeutiques et des pistes thérapeutiques en cours de développement?
Et docteur Prodhomme, est-ce que ce diagnostic d'achondroplasie est toujours réalisé lors d'échographie anténatale?
Alors, le plus souvent, oui, mais parfois les signes ne sont pas encore présents sur la troisième échographie de grossesse. Et donc, dans un quart des cas, le diagnostic va être fait en postnatal lors de l'accueil du bébé avec l'ensemble des signes précédemment décrits.
Et donc, en postnatal, quelle est la présentation radiologique typique de cette maladie rare?
Alors donc, à la réalisation des clichés, si on a une suspicion de découverte postnatale ou un diagnostic fait en anténatal, on retrouvera tout d'abord au niveau du bassin un aspect carré des ailes iliaques, des cotyles qui vont être horizontaux et dans les chancres ischiatiques, l'apparition d'une image en épine. Au niveau du rachis, le critère principal, ça va être un canal lombaire étroit et les vertèbres peuvent être plates. C'est nommé une platyspondylie et également une hyperlordose au niveau du rachis de profil. Ensuite, le thorax peut être étroit car les côtes peuvent être courtes. Les os longs sont dans l'ensemble courts, essentiellement les fémurs et les humérus. Donc c'est au niveau proximal, au niveau rhizomélique. L'extrémité proximale des fémurs, on en a discuté en anténatal avec l'aspect en cuillère à glace. Et les anomalies des mains aussi précédemment décrites, métacarpes et phalanges courtes.
Et au-delà de ce tableau, est-ce qu'il y a d'autres points spécifiques à explorer d'un point de vue radiologique?
Tout à fait. Il faut explorer la charnière cervico-occipitale, qui est mal explorée radiologiquement sur les bilans faits de squelette. Et Il peut exister, et assez fréquemment, une sténose du canal rachidien cervical et du trou occipital, avec bien sûr le risque, le corollaire, le risque de compression médulaire, et également des anomalies d'écoulement du LCR qui peuvent conduire à une dilatation ventriculaire. Et donc, il est proposé de faire une IRM de la charnière cervico-occipitale vers l'âge de 6 mois, et de toute façon, avant toute chirurgie ou anesthésie.
Et ensuite, si on se projette un peu, docteur Prodhomme, quel suivi radiologique proposé pour ces patients?
Alors, c'est un suivi radiologique qui n'est pas systématique, qui doit être guidé par des médecins spécialistes, neurochirurgiens ou chirurgiens orthopédiques essentiellement, avec, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout d'abord l'exploration du canal rachidien cervical lorsque c'est pertinent, l'exploration d'un canal lombaire étroit qui va poser souvent des problèmes neurologiques dans l'évolution, essentiellement à l'âge adulte, l'exploration de troubles de la statique rachidienne avec l'hyperlordose lombaire et éventuellement des scolioses, l'exploration des déformations des membres inférieurs dans l'éventualité de correction d'angle ou d'allongement des membres inférieurs. Et bien sûr, ce sera des aides à la décision chirurgicale pour ces médecins spécialistes. Secondairement, à l'âge adulte, la déformation des os longs peut conduire à une arthrose précoce. Et là également, il pourrait y avoir des explorations spécifiques, encore une fois, pour des décisions médicales de rhumatologie ou d'orthopédie. Et enfin, se développent actuellement des bilans par scanner 3D avec des modélisations informatiques qui permettent un bilan pré-thérapeutique et des procédures nouvelles de chirurgie assistée par ordinateur.
Alors, on sait que la prise en charge des jeunes enfants touchés par une achondroplasie est en train d'évoluer. Pour ces jeunes patients qui seront amenés à recevoir un traitement, quel sera le suivi radiologique?
Tout d'abord, c'est un bilan d'évaluation de l'efficacité thérapeutique. Dans le cadre d'études cliniques, les recommandations sont à définir. C'est pas encore précisé. Actuellement, l'évaluation thérapeutique se fait sur des éléments cliniques de taille, mais on pourra peut-être être amené à faire des explorations radiologiques pour voir si l'efficacité de ces nouveaux traitements permettent, par exemple, de réduire les problématiques liées au rétrécissement du canal rachidien cervical ou du foramen occipital, des déformations de membres, de scoliose, d'hyperlordose. Pour l'instant, c'est des questionnements qui restent encore ouverts.
Eh bien, merci infiniment, docteur Prodhomme, de nous avoir éclairé sur l'aspect radiologique de cette maladie rare qu'est la chondroplasie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.